Marc 14, 32 à 52. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe, « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Maître !» Et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme qui le suivait, habillé d'un simple drap, on l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu.
Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis, et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce texte. Il s'agit de la lettre de Guy Môquet, jeune résistant de 17 ans, fusillé en 1941 par la Wehrmacht. Voilà un gamin de 17 ans qui semble se présenter face à une mort injuste avec une certaine sérénité et comme un sens du devoir accompli. Nous revenons maintenant à Jésus, 20 siècles plus tôt, qui lui aussi sait qu'il va mourir. Et à première vue, le contraste est saisissant. Le portrait que Marc nous fait des dernières heures de Jésus avant son arrestation est celui d'un homme saisi par l'angoisse. Comment comprendre cela ? Si Jésus est bien le Sauveur, le Fils de Dieu, qui sait pertinemment pourquoi il est venu et pourquoi il va mourir, comment comprendre le mystère de cette souffrance accablante à Gethsémané ? Et je vous propose de considérer que l'idée principale de ce texte est la suivante. Jésus va jusqu'au bout pour accomplir la volonté du Père. Il n'évite pas la souffrance. Il l'affronte. Il va droit au cœur des ténèbres. On va voir ça en trois temps de réflexion. Retour au jardin, Jésus en prière. Et l'heure est venue. Retour au jardin, tout d'abord. Pourquoi alors que Jésus et ses disciples ont terminé leur repas de la Pâque, pourquoi est-ce qu'ils se rendent à ce moment-là, en pleine nuit, dans un jardin ? Alors, pour être précis, Marc ne parle pas explicitement de jardin, mais le nom du lieu, Gethsémané, évoque une oliveraie. Et Jean nous dit dans son évangile qu'il s'agit d'un jardin. Donc, il n'y a pas de doute. Mais en préparant ce message, je me suis posé la question, pour la première fois, je crois, pourquoi est-ce qu'ils sont allés là, à ce moment-là ? On aurait pu imaginer que Jésus et ses disciples passent la nuit dans la maison où avait eu lieu le repas de la Pâque, ou qu'ils retournent, quitte à marcher dehors la nuit, qu'ils fassent à peu près un kilomètre de plus et qu'ils retournent dans le village de Béthanie, qui était tout proche et qui avait été leur pied-à-terre toute la semaine. Mais au lieu de cela, Jésus emmène ses disciples dans un jardin aux abords de la ville. La seule explication de cela, me semble-t-il, c'est que précisément Jésus sait qu'il va être arrêté. Et il prend les devants. Il reste à Jérusalem, mais se rend dans un endroit où il va pouvoir passer un dernier moment avec ses disciples, en prière. Marc nous décrit la scène en détail. Et soit dit en passant, on a de bonnes raisons de penser que Marc a écrit cet évangile au contact de Pierre. Et que donc c'est souvent les récits de Pierre que Marc nous raconte. Et puis par ailleurs, on le verra plus tard, il n'est pas exclu que Marc lui-même ait été dans les parages au moment de ce récit. Mais je ferme la parenthèse, il nous décrit la scène en détail. Jésus invite ses disciples à s'asseoir, et puis il va un peu plus loin avec Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas la première fois. Les lecteurs attentifs de l'évangile de Marc que vous êtes, vous l'aurez peut-être remarqué, ce n'est pas la première fois que Jésus prend ses trois disciples à part. Il semble avoir voulu faire de ces trois hommes les témoins privilégiés de certains moments clés. La résurrection de la fille de Jaïrus, au chapitre 5, la transfiguration qui nous est racontée au chapitre 9. Deux moments clés de la révélation de la puissance et de l'identité de Jésus. Jésus, vainqueur de la mort, et comme une anticipation de sa propre résurrection, et Jésus révélé dans sa gloire comme Fils de Dieu, Seigneur de toutes choses. Mais maintenant, c'est dans un cadre beaucoup plus sombre que Jésus invite ses trois mêmes amis à l'accompagner tout particulièrement. Verset 33, « Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. » C'est fort ces mots. Mon âme est triste à mourir. Restez ici, éveillés. Verset 35. Il se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Que se passe-t-il vraiment ici ? La clé, comme beaucoup l'ont souligné, se trouve au verset 36. Éloigne de moi cette coupe. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament évoque l'image d'une coupe en rapport avec la colère de Dieu déversée sur son peuple à cause de la désobéissance et des péchés du peuple. Or, comme nous le rappelons, dimanche après dimanche, Jésus est allé à la croix pour que la colère de Dieu soit déversée sur lui et non sur nous. Et Jésus a fait cela volontairement et en connaissance de cause. Alors, il est probable que Jésus ait été troublé en pensant à la torture physique qu'il allait subir et en pensant aussi à l'humiliation publique que représentait une crucifixion. Nul doute que cela troublait Jésus. Mais il semble certain que bien plus encore, c'est face à cette coupe de la colère de Dieu qui l'attendait, que Jésus a été accablé de tristesse et d'angoisse. Imaginez un instant que, alors il faut imaginer être dans un pays où la peine de mort est encore pratiquée, que vous deviez vous substituer à un condamné à mort, par exemple un terroriste meurtrier de masse, et c'est vous qui devez donc vous présenter face au bourreau, c'est votre nom qui a pris la place de celui du terroriste sur l'acte d'accusation, c'est vous que les gens regardent avec consternation et considèrent comme le pire des criminels. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes la personne la plus gravement lésée par le crime. Vous avez, par exemple, perdu tous vos proches dans l'attentat en question. Mais c'est vous qui devez subir la condamnation à mort. En imaginant ce scénario, on peut avoir une idée très limitée et très imparfaite de ce à quoi Jésus fait face. Mais c'est encore incomparable. Parce que ce n'est pas la condamnation d'un crime particulier que Jésus va subir, mais celle du mal commis par les hommes depuis la nuit des temps, depuis la transgression de nos premiers parents. Et ce n'est pas juste quelqu'un de bien qui doit subir une peine injuste, mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui depuis toujours vit dans une parfaite intimité avec le Père, qui s'apprête maintenant à faire face à sa colère et à sa condamnation. Donc dans le scénario évoqué il y a quelques instants, il faudrait ajouter le fait que le juge qui prononce la peine, c'est le Père avec qui on jouit depuis toujours d'une proximité et d'une intimité parfaite. Ce à quoi Jésus fait face est en fait inconcevable. Mais il fait face à cet inconcevable en tant qu'homme. Un homme sujet à la souffrance. Jésus, à Gethsémané, n'a pas triché. Il fait face à une souffrance inconcevable dans son humanité. En tant qu'homme, il fait face à cette souffrance. Et donc, est-ce que c'est un signe de faiblesse s'il n'avance pas vers la croix avec une sorte de sérénité ou de détachement ? Ben, il me semble que bien au contraire, c'est un signe de force, parce que Jésus n'évite pas la réalité de ce qu'il affronte, mais il va en plein cœur. S'il avait réagi avec sérénité et détachement, il n'aurait pas été humain face à cette souffrance-là. Mais Jésus est venu en tant qu'homme pour sauver les hommes. C'est en tant qu'homme, en tant qu'être humain, qu'il s'est substitué à nous devant la justice du Père. Alors je me pose la question, est-ce un hasard si c'est dans un jardin que ce moment terrible a lieu ? C'est dans un jardin, nous dit le chapitre 3 de la Genèse, que le mal fait irruption dans l'humanité et dans la création et place l'homme sous la condamnation et le jugement de Dieu. Mais toujours en Genèse 3, il est annoncé que la descendance de la femme écraserait un jour la tête du serpent, c'est-à-dire le diable, l'ennemi spirituel. Mais c'est comme si là, Jésus revient au jardin pour y retrouver cet ennemi ancien. Dans quelques instants, cet ennemi semblera triompher, quelques heures après ce récit. Jésus sera arrêté, torturé, exécuté, humilié. Mais en fait, c'est sa défaite, c'est la défaite de l'adversaire qui est en train d'être scellée. À la croix, Jésus va effacer la colère de Dieu à notre égard et ce faisant, il va enlever à l'ennemi sa seule arme, le fait de nous garder loin de Dieu, condamnés aux yeux de Dieu. Jésus retourne au jardin pour défaire la faute commise dans le premier jardin. Mais il y a un autre aspect de ce temps à Gethsémané sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est la prière de Jésus et ce qui se passe autour de cette prière. On arrive à notre deuxième temps de réflexion, Jésus en prière. Si on veut filer un peu l'image du jardin, on constate que Jésus, alors qu'il fait face à la pire des épreuves, ne va pas se cacher. Contrairement à Adam et Ève dans le jardin, bien au contraire, il va de lui-même à la rencontre de son Père. Verset 32, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Pendant que je prierai. Et ça doit d'emblée nous faire réfléchir. Dans l'épreuve, lorsque nous vivons des temps d'épreuve, souvent notre tendance c'est de nous replier sur nous-mêmes. Nous replier sur nous-mêmes par rapport aux autres, mais aussi souvent, en tant que croyants, nous replier sur nous-mêmes par rapport à Dieu. Ce n'est pas toujours le cas dans nos épreuves, mais c'est souvent notre tendance. Et du coup, d'avoir du mal à prier, d'avoir du mal à entretenir cette relation avec Dieu. Et j'y reviendrai, Dieu a de la compassion pour le croyant qui passe par ce désert spirituel. Mais il est frappant que Jésus fait tout le contraire. Alors que l'angoisse l'agrippe, alors que l'épreuve, la pire des épreuves, imaginable, et même on ne peut pas l'imaginer, alors que l'épreuve est imminente, il a soif d'intimité avec son Père, qu'il appelle comme à d'autres moments « Abba », en gros « Papa ». Mais ce qui est le plus saisissant dans cette section, c'est le contenu de la prière de Jésus. Alors, elle a fait couler beaucoup d'encre. Certains considèrent cette phrase comme l'un des plus grands mystères du Nouveau Testament. Verset 36, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors déjà, au passage, on peut signaler qu'on a ici un récit qui crie son authenticité. Parce que si on est les disciples de Jésus, si on est les apôtres quelques décennies plus tard qui répandent l'évangile partout dans le monde et qui disent que Jésus est le Seigneur, qu'il est tout-puissant, qu'il est le Sauveur, et qu'on veut raconter cette histoire qu'on aurait inventée à des gens, est-ce qu'on imagine qu'on va raconter que Jésus a été saisi d'angoisse et a prié au Père « S'il est possible, éloigne de moi cette coupe ?» Puis est-ce qu'on imagine que les disciples auraient raconté avec une telle honnêteté leur propre désertion ? Un récit vraiment qui dit toute son authenticité. Mais je ferme cette parenthèse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette phrase est difficile parce qu'elle pose des questions du point de vue doctrinal. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant trois personnes distinctes, sont bien un Dieu unique, c'est le mystère de la Trinité, et je crois qu'effectivement c'est ce qu'enseigne le Nouveau Testament, alors comment comprendre que Jésus semble ici distinguer sa volonté de celle du Père ? Et devant ce genre de questions, on doit faire avant tout preuve d'une grande humilité. Personne ne peut prétendre saisir, expliquer l'être de Dieu dans des catégories qui seraient les nôtres. On peut chercher à comprendre au mieux ce que Dieu nous dit de lui-même, mais personne d'entre nous peut dire « j'ai compris Dieu, j'ai fait le tour, je vais vous expliquer tout ça ». Ou si vous pensez cela, venez m'en parler. Donc devant ce genre de questions, on doit avant tout faire preuve d'une grande humilité. Mais je pense qu'on peut comprendre quelque chose de cette prière de Gethsémané. Jésus, on l'a déjà vu, est pleinement homme. Et dans son humanité, il fait face à la souffrance et à la tentation. La tentation de s'opposer à la volonté de son Père. En fait, c'est la mère de toutes les tentations. C'est la tentation fondamentale. Dans nos parcours, c'est celle-là qui est la plus dangereuse. Le fait de dire à un moment, « Bon, allez, cette fois, moi, je vais faire ce que moi, je veux. Je ne vais plus me poser la question de la volonté du Père. » Mais c'est précisément ce que Jésus ne va pas faire. Alors que c'est vrai que dans sa prière, Jésus, pour reprendre les mots d'un commentateur, il va explorer les confins de la volonté de Dieu. « Serait-il possible, Père, que dans le cadre de ta volonté, il y ait un autre moyen ? Est-il possible que toi, mon Abba, mon tendre Père, tu ne retournes pas ton visage contre moi et que tu me gardes pleinement dans ta paix et ton amour ? Est-ce possible, Père ?» Et ça doit nous interpeller que Jésus a la liberté, même Jésus, de dire cela dans sa prière. Jésus pose ces questions dans son humanité, mais il pose cette question dans l'obéissance à Dieu. Et on le voit dès la fin de la prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le sens même de la foi, c'est de rejoindre par notre volonté la volonté du Père. Confiant que sa volonté est bonne, confiant qu'ultimement tout convergera pour justifier les choix de Dieu. C'est là que le contraste avec les disciples est frappant. Ils dorment. Dans un sens, c'est compréhensible. Ils arrivent à la fin d'une semaine éreintante. Il suffit de lire ce qui précède dans l'évangile de Marc pour voir que vraiment, c'était une semaine épuisante. Ils viennent de vivre l'une des grandes fêtes du judaïsme, le repas de la Pâque. La nuit est tombée. Maintenant, Jésus veut aller encore passer des heures en prière dans un jardin pendant la nuit. Je ne suis pas sûr que nous aurions fait mieux. Mais leur sommeil est révélateur. Ils sont complètement en décalage avec ce qui est en train de se jouer. Ce jour à la fois le plus sombre et le plus important de l'histoire. Et ils sont incapables aussi de soutenir Jésus dans son épreuve. C'est poignant de voir que Jésus leur dit en quelque sorte « J'ai besoin de vous, restez avec moi, veillez avec moi. » Quand Jésus dit à ses disciples, à Pierre, Jacques et Jean, de rester vigilants, littéralement de veiller, et de prier pour ne pas céder à la tentation, nul doute qu'il est conscient de s'adresser non pas seulement à ses trois amis, mais à des générations de disciples par la suite. La distraction, le sommeil spirituel ne sont rien de nouveau. Peut-être que c'est des choses qui nous guettent plus que jamais, la distraction et le sommeil spirituel, aujourd'hui à l'heure des nouvelles technologies et de l'overdose d'informations dans tous les sens. Sur mon téléphone portable, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je peux avoir accès si je veux au temps passé chaque jour devant l'écran de ce téléphone. Et quand de temps en temps je vais voir cette statistique, elle est assez effrayante. Et récemment d'ailleurs j'ai pris quelques résolutions à ce sujet. Que ce soit pour travailler ou pour se divertir, le temps cumulé passé devant un écran m'interpelle sur l'organisation de mon temps, sur mes priorités et sur l'attention que j'accorde à ce petit objet. Souvent, je le crains au détriment d'une vie de prière plus riche. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder nos téléphones, hein, ils sont là aussi pour ça. Mais je ne suis sans doute pas le seul à avoir tendance à me tourner vers mon téléphone dès qu'il y a une pause maintenant. Dès qu'il y a une attente, je fais la queue au magasin, je suis dans les transports, dès qu'il y a la moindre pause, eh bien hop, tout de suite on regarde l'écran. On va sur Internet, on regarde ses mails, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, et je ne veux pas paraître simpliste en disant cela, mais je m'interpelle moi-même en premier lieu, puis vous en retenez ce que vous voulez, mais si je passais une part significative de ces temps de pause et d'attente à parler avec mon Père céleste, à lui présenter toutes mes questions, mes joies, mes peines, mes craintes, il y en a plein, et à chercher activement sa volonté et ma place dans ses projets, et la place de ma place dans cette église et la place de cette église dans ses projets. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. Nous avons besoin de vigilance, nous avons besoin de voir clair sur l'état de notre cœur, sur le monde autour de nous, sur la volonté de Dieu et sur les promesses de Dieu. Nous avons besoin de passer plus d'attention, de placer plus d'attention dans la parole de Dieu que devant les messages que nous envoie notre téléphone portable. Nous avons besoin de veiller, parce que le jour de la délivrance finale, le retour du Seigneur, n'est pas encore là. Et en tant que chrétiens, nous l'attendons. Le mal a déjà subi sa défaite décisive à la croix et à la résurrection, mais il est encore en sursis et il nous guette, et jusque dans nos propres vies. Mais le jour vient, l'aube d'une nouvelle histoire, une nouvelle création, nous dit la Bible. Et d'ici là, nous devons rester en éveil. Mais pour Jésus, c'est l'heure des ténèbres qui est arrivée ce soir-là. Et ce sera notre troisième et dernier point, plus brièvement. L'heure est venue. Le 31 janvier dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Le Brexit, bien sûr, le fameux Brexit. Après 3 ans de négociations à peu près, le Royaume-Uni a, on a presque envie de dire enfin, quitté l'Union européenne. Alors ce soir-là, j'avais une insomnie, je pense qu'il n'y avait pas de rapport, a priori, qui sait. Et donc j'ai regardé sur mon écran de téléphone le compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Et tous ceux qui étaient pour le Brexit lançaient des acclamations. Ce moment annoncé depuis si longtemps est arrivé. Jésus a parlé à plusieurs reprises de cette heure qui vient. Alors dans l'évangile de Jean en particulier, c'est un refrain qui revient à de nombreuses reprises. Et cette fois, à la fin du verset 41, on le voit également, « L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Et là encore, Jésus prend les devants, verset 42, « Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Contraste frappant avec la fuite des disciples un peu plus tard. Jésus, lui, va au contraire à la rencontre de celui qui le trahit. La scène de l'arrestation de Jésus, elle est assez connue. Une troupe fortement armée vient arrêter un homme qui prie entouré de quelques disciples. Et Jésus va relever le ridicule de la situation au verset 48 et 49. Après tout, ils auraient pu se saisir de lui à n'importe quel moment de la semaine. Ils ne l'ont pas fait par crainte de la réaction des foules. Et maintenant, ils viennent lourdement armés l'arrêter en pleine nuit dans un jardin pendant qu'il prie. Quel courage! Pire encore est l'attitude de Judas. Judas ne ressent rien encore des remords qui le frapperont plus tard. Il va jusqu'au bout de l'hypocrisie en venant saluer Jésus affectueusement en apparence et puis en s'écartant pour que les soldats apparemment cachés l'arrêtent. Alors la faute de Judas, elle est incomparable. Mais il faut reconnaître que les autres disciples ne sont pas non plus à la hauteur. Lorsque Jésus est emporté, verset 50, « tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Et c'est Pierre qui dit ça, et c'est Marc qui dit ça, c'est les disciples mêmes qui rendent ce témoignage. « Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Il y a comme un écho ici au sommeil de Pierre, Jacques et Jean. Les disciples sont trop distraits, trop spirituellement endormis pour être présents avec le maître dans cette heure sombre. Et on peut souligner que c'est le risque qu'on encourt lorsqu'on s'endort spirituellement et lorsqu'on n'a pas bien compris ou bien qu'on oublie qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi pour ça qu'on prend la Sainte Cène régulièrement, pour ne pas l'oublier. Les évangiles, et tout particulièrement celui de Marc, montrent que les disciples ont eu du mal à voir clair sur la personne de Jésus. Ils ont eu beaucoup de mal à comprendre qui il est vraiment et pourquoi il est venu. Et en fait, c'est après sa résurrection qu'il y a beaucoup de choses qui vont vraiment se mettre en place, qui vont vraiment comprendre. Mais il y a plein de choses à ce moment-là qui ne sont pas claires pour eux, et c'est pour ça aussi qu'en cette heure sombre, ils ne répondent pas présents. Ce qui nous permettra d'accepter de suivre Jésus sur le chemin de la souffrance, c'est de voir clair sur qui il est, sur son caractère unique, sur sa valeur infinie. Et ça, les disciples le comprendront mieux plus tard. Et il faut noter cet encouragement, c'est qu'à l'exception de Judas, tous ceux qui ont fui ce soir-là ont été réhabilités. Ils ont été pardonnés. Et si Dieu agit avec cette patience et cette compassion envers nous, envers eux et envers nous, s'il nous pardonne non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, c'est justement parce que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout du chemin de la croix. C'est parce que Jésus est allé au bout de ce chemin de souffrance que Dieu aujourd'hui peut agir avec cette compassion et cet amour à notre égard. C'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout que nous pouvons avoir l'assurance qu'avec lui, c'est le pardon qui aura le dernier mot. Notre texte se termine par une anecdote mémorable et curieuse. Verset 51. Un jeune homme le suivait habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. On lit ça, on a envie de dire « ok », mais encore. Alors beaucoup pensent que, un peu à la manière d'Hitchcock dans ses films, c'est l'auteur Marc qui discrètement signale sa présence. Et certains voient des petits indices dans le livre des Actes que c'était peut-être dans la maison de Marc qu'avait eu lieu le dernier repas. Bon, c'est possible. C'est possible, on ne peut pas avoir de certitude. Mais au-delà, est-ce qu'il faut voir un sens particulier à cette fuite, ce drap qui s'envole? Il y a eu des interprétations souvent un peu alambiquées de cela. Dans le contexte, il est sans doute préférable d'y voir juste un élément supplémentaire de honte, de désertion. Ce jeune homme a voulu accompagner Jésus, mais au final, il se retrouve tout nu, et il rentre chez lui en courant. Qui sait si on garde l'idée du jardin, s'il n'y a pas un contraste avec l'homme et la femme, qui, ça nous est dit au début de la Genèse, ils sont nus, mais ils n'en éprouvent aucune honte. On a ici un jeune homme qui, lui, part en courant, tout nu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça rejoint, semble-t-il, les récits de désertion des autres disciples. Donc le constat est accablant. Tous sont partis en courant. Et la question pour nous n'est pas tant de savoir ce que nous aurions fait à leur place, mais plutôt de savoir si aujourd'hui nous sommes prêts à suivre Jésus lorsque le fait de le suivre implique de faire face à la souffrance. Beaucoup ici peuvent témoigner, je crois, de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Pas de la facilité de l'épreuve, hein, par définition, mais de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Et par rapport aux disciples, nous avons un avantage immense. C'est que nous savons ce qui s'est passé après la croix. Nous savons que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Nous savons que les mêmes disciples qui se sont enfuis ce soir-là, eh bien, le dimanche matin, ils ont trouvé un tombeau vide et ils ont rencontré un sauveur ressuscité. Et en ce sens, Dieu a exaucé ultimement la prière de Jésus. Il n'a pas évité la coupe, c'est vrai, mais il en est sorti vivant et vainqueur. Dieu parfois dit d'abord non pour donner ensuite un meilleur oui. Le chemin est déjà tracé pour nous, il passe parfois par la souffrance, mais il débouche en Jésus-Christ sur la vie. Alors ne soyons pas de ceux qui s'enfuient en courant, restons éveillés, car après la nuit, le jour arrive, le meilleur reste à venir. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce que dans ta grâce, tu as voulu nous épargner à nous, cette coupe de ta colère. Merci parce qu'en Jésus, ton Fils, tu as pourvu pour nous un parfait moyen de pardon, de réconciliation avec toi, de salut. Merci parce que Jésus lui-même, qui en parfait accord avec toi est allé jusqu'à cette croix, en est sorti vainqueur et vivant. Merci parce qu'il règne aujourd'hui et que nous pouvons regarder à lui, non pas comme un souvenir de quelqu'un d'exceptionnel, mais bien comme un sauveur vivant. Et qui règne déjà, mais dont le règne un jour sera visible et reconnu de tous. Et nous voulons te prier pour que tu nous donnes de veiller, de rester éveillé, de rester vigilant, vigilant sur nous-mêmes, sur l'état de nos cœurs, vigilant sur l'état de ce monde, mais plein d'espérance, parce que nous savons que tu as envoyé ton Fils Jésus, comme le dit ta parole, tu l'as envoyé pour que nous soyons sauvés. Tu l'as envoyé pour que nous soyons pardonnés. Tu l'as envoyé pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Et nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus. Amen.